11h midi, Studio B.
Studio B.
Je vais vous prouver que je suis capable.
On parle pas de ton père, on parle de toi.
Mais tu pars quand?
Pour mon verre de doigt ou pour mon paternel. N'aime
pas. Ça vous dérange pas un élève de plus?
Je suis motivé, oui, pourquoi pas.
Tu peux me dire à quoi ça sert d'être des vedettes?
Vous êtes vraiment des héros.
Comment on est-il?
Je vais vous envoyer au bled chez ma mère et vous allez faire du moonwalk sur les cactus.
C'est terminé.
Salam, shalom.
Au revoir, nous c'est au revoir.
C'est ça, casse-toi.
Venez, 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 venez voir.
Et le soleil est là, car je l'ai demandé.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.
Bonjour et bienvenue dans Studio B. Moi c'est Christophe et avec Linda jusqu'à midi, on va vous parler de cinéma. Bonjour Linda.
Salut Christophe, bonjour tout le monde.
Linda, elle est toute bronzée.
Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai pas bronzé,
pas tant
mais...
que ça en plus.
Ouais, je me suis mangé la pluie à Zanzibar, mais j'ai fait un voyage magnifique, donc je suis très contente.
Hey, tu nous as envoyé des photos de safari, des photos de...
Des Maasai, enfin, plein de photos quoi.
Mais par contre, je crois savoir que tu as eu un peu de pluie quand même sur la fin.
Ouais, une semaine de pluie, d'où mon manque de bronzage. Voilà, hein, on n'en parlera pas. Normalement, en radio, ça devait pas se voir.
Okay. Bah ouais, mais c'est pas grave, parce que nous, on est transparents, on dit tout, même pas peur.
Voilà.
Bon, allez, bah, tu remets au travail, hein, c'est pas tout ça, sous les vacances, t'es bien gentil, mais maintenant, faut y aller, quoi. Voilà. Voici le programme de cette émission avec tous vos rendez-vous habituels, à commencer dans moins de 2 minutes par ma sélection ciné des sorties de mercredi prochain. On ira se rebeller avec des lycéens en Allemagne de l'Est. On ira galérer avec Cadmirade et on ira sauver le monde avec un gros singe. Tout un programme, et il y aura aussi le j'y vais pas de Linda.
Et oui, avec moi, on va parler d'un documentaire. Un documentaire qui me tient à cœur et ça s'appelle Nous sommes l'humanité.
Bon, tu nous diras si tu vas le voir ou si tu ne vas pas le voir, mais comme tu as dit qu'il te tenait à cœur, je pense que ce sera un j'y vais.
Sens, hein.
Ah, on sait jamais.
Rien,
c'est pas faux. Quel suspense. À 11h30, les news avec le box-office, toujours dominé en France par Taxi 5. Et puis les actus de Linda.
Ah ouais, avec moi, on va parler de l'Arabie Saoudite. Hein. C'est pas un sujet qu'on a l'habitude de faire, mais il faut savoir que des cinémas sont autorisés en Arabie Saoudite.
Ça y est, alors que c'est interdit depuis longtemps.
Très longtemps. On en parlera juste après. Et par la suite, on va encore et encore et encore parler de l'affaire Weinstein, parce qu'on adore parler de l'affaire
Weinstein. Il y a toujours des rebondissements.
Des choses, voilà. Et on finira avec un sujet un peu plus détente. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, on va parler de Chicken Run.
Ah oui,
ça fait longtemps, ça aussi, très très longtemps.
Et il y a des nouvelles infos sur Chicken Run?
Oh,
rendez-vous à 11h30 pour les news. Deux gros sujets au programme de cette émission. Nous aurons tout d'abord dans 10 minutes par téléphone Myriam Benbarek. C'est la réalisatrice du film Sofia. Ce film sortira en septembre en France, mais on en parle puisqu'il a été sélectionné dans la section Un certain regard du Festival de Cannes. Elle sera avec nous dans moins de 10 minutes par téléphone. Et tout à l'heure, aux alentours d'11h40, nous parlerons série avec Frédéric Lavigne. C'est le directeur artistique du Festival Série Mania qui a démarré vendredi à Lille, un festival où toutes les entrées sont gratuites. Rendez-vous donc pour parler de séries tout à l'heure aux alentours de 11h40. Voilà pour le programme. Bienvenue dans le 51e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de
la semaine.
On va
nous parler des prochaines sorties ciné avec La Révolution Silencieuse.
Oui, ça sort mercredi prochain, La Révolution Silencieuse, c'est mon coup de cœur de la semaine. On est en Allemagne de l'Est, sous emprise soviétique, en 1956. Des élèves de terminale décident spontanément de faire une minute de silence en hommage à des rebelles hongrois violemment réprimés par le régime soviétique. Ça va devenir une vraie affaire d'État et cette vingtaine d'élèves de 18 ans va devoir rester solidaire entre eux pour faire front contre le gouvernement qui va tout faire pour les faire dénoncer lequel d'entre eux a initié le mouvement. En plus, c'est issu d'une histoire vraie, une belle leçon de liberté et de résistance d'élèves de Terminal. La Révolution Silencieuse, ça sort donc mercredi.
Et tu vas nous parler de Comme des Rois avec
Cadmirade. Oui,
j'ai bugué, mais c'est ça, Cadmirade.
C'est Comme des Rois avec Cadmirade qui joue un homme qui galère avec son entreprise de petites escroqueries au porte-à-porte et qui a besoin de l'aide de son fils qui préférait partir à Paris faire des études de théâtre. Bande annonce.
Non, mais de toute façon, je peux pas. Je vous ai dit, hein, 70 euros, c'est trop cher.
Attendez, pour 3 bouteilles grand cru classé.
Monsieur, on peut savoir ce que vous faites là? Le coup du vin à prix cassé, c'est ça? Vous avez une carte professionnelle? Ah oui, très bien, je connais. Non, 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 c'est des gens sérieux, ça.
C'est quoi comme vin?
Ah oui, Saint-Emilion 2007, c'est bien ça, non? Moi, je vous les prends, moi.
Attendez, je vais vous les prendre.
Ouais, tu vas faire du mouton rôti, un tiers de cao, un tiers de bolawan. Pour le dernier tiers, tu mets moitié pinot, moitié silibrine.
C'est trop dangereux ce que tu lui fais faire.
Dans 6 jours, on va être tous à la rue. Putain, mais tu te mets dans le crâne, ça, ou non, Mika? Je m'arrache comme un con pour que vous puissiez bouffer, je travaille comme un dingue. Sans moi, il n'y a plus de fric dans ce pays. Il n'y a plus rien.
Mika, nous, il faut qu'on lui foute la paix, tu comprends ça?
Je veux faire une école à Paris.
Une école? Une école de quoi? Faire le guignol avec du maquillage et tout.
C'est nous qui me dis des petits escrocs, non?
Parce que c'est comme ça que tu me vois, toi. Comme un petit escroc. Ah, Michel, mais je vais pas y arriver, moi, une semaine.
Non, hein. Moi, non, 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 non.
Je sais pas si je vais y arriver.
Vous en avez quoi de main, hein? Retenez, moi.
Oh, papa!
Et donc, lui, vous le connaissez bien?
Ouais, ouais, je connais surtout son père.
Ouais.
Alors vous l'avez compris, ce n'est pas le cas de Mirat Komik que l'on retrouve dans ce film. Le rôle lui a visiblement plu puisqu'il a lu le scénario et l'a accepté en seulement 24 heures. Kad Mirat qui a lui-même, lorsqu'il était jeune, fait de la vente en porte-à-porte dans le même type de quartier pavillonnaire de banlieue où se passe le film.
Rampage, hors de contrôle.
Ouais, Rampage, comme ça qu'on dit comme
magnifique.
Ça.
Ouais,
toujours un format de l'accent anglais. Rampage, hors de contrôle. Ça sort aussi mercredi. C'est l'adaptation d'un jeu vidéo. David est spécialiste des singes et il est devenu ami avec un petit gorille intelligent qui s'appelle Georges.
Georges avait 2 ans quand je l'ai sauvé. Il est plus qu'un ami. Il fait partie de ma famille.
Alors, sauf que Georges, il vient de subir une opération génétique qui a un petit peu bugué.
Les changements vont être totalement imprévisibles. Force décuplée, vitesse accrue, agilité démultipliée.
Ouais, on est sur des gros changements. En gros, ils ont créé un monstre de la taille de King Kong qui se balade dans la ville et qui casse tout.
On va mourir !
Ça se pourrait bien !
Mais non, parce que David, il est trop fort.
Allons sauver le monde. C'est des gros bras, cherche pas à lutter.
Et avec ses gros bras et surtout son gros cerveau, il va trouver le moyen de redompter Georges qui va même nous aider à sauver le monde contre d'autres animaux mutants. Alors, je vous promets pas un film de grosses réflexions, mais après tout, on peut débrancher le cerveau parfois aussi, ça fait du bien.
Et ça s'annonce dangereux hein, quand j'entends ce mot-là. Action
oui,
ou
peur,
vérité
hein. Action, vérité. Alors, des jeunes, des fêtes, du sexe, des morts et un titre accrocheur. On est carrément dans le cliché du film d'horreur. Laissez votre cerveau dormir un peu.
Milf, tiens, c'est un nom bizarre ça.
Ouais, l'histoire de 3 amies d'enfance qui descendent de vendre la maison de l'une d'entre elles dans le sud. Elles arrivent aux 40 ans et elles vont se faire draguer et se laisser séduire par 3 jeunes garçons.
Hôtel Salvation.
Cette fois, le cerveau se réveille. Pour ce film indien, un vieil homme sent que sa fin est proche. Il décide de partir mourir au bord du Gange. Son fils n'y croit pas, mais il va quand même laisser tomber à contre-cœur son travail et sa famille pour l'accompagner.
Et avoir aussi cette semaine 3 documentaires. Hein.
Mai 68, Panneau ne passera pas sur la censure à la télé durant mai 68. Nous, les intranquilles, un doc sur la folie réalisé par les patients d'un centre d'accueil psychothérapeutique. Et Big Time dans la tête de Bjarke Ingels sur une vraie star de l'architecture qui fait les plans des plus hauts gratte-ciel dans le monde entier. Et puis il y a un quatrième doc qui sort aussi mercredi prochain, c'est Nous sommes l'humanité et c'est le film que tu as choisi pour ton j'y vais pas. Et alors c'est plutôt un j'y vais ou plutôt un j'y vais pas?
Bon, alors je me doute hein, que sans même me poser cette question, tu as déjà la réponse. Mmh. Évidemment, c'est un j'y vais et même un très grand j'y vais. Alors c'est juste une chance de découvrir l'un des plus anciens peuples au monde et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'avaient jusqu'à présent jamais accepté d'être filmés. Donc vraiment, hein, là on a une chance inouïe de pouvoir découvrir leur vie, leur culture, leurs croyances. D'autant plus que ce peuple est menacé puisqu'ils ne sont plus que 400 et notre monde à nous est sur le point de les faire disparaître. Donc encore une bonne raison d'aller voir ce docu qui peut-être éveillera les consciences de beaucoup d'entre nous.
Alors qui sont-ils ces Jarawa?
Alors les Jarawa sont l'un des derniers peuples afro-asiatiques des îles Andaman en Inde. Alors ils ont vécu dans un tel isolement que quasiment personne n'a pu étudier leur culture, leur langue. Ils sont les derniers descendants des premiers humains modernes qui, il y a environ 70 000 ans, ça fait très longtemps quand même, ont quitté l'Afrique pour partir à la découverte du monde. Alors c'est un peuple qui vit libre, sans hiérarchie ni religion. Ils se nourrissent en grande partie seuls grâce à tout ce qu'ils trouvent dans la forêt, mais aussi grâce aux gardes forestiers indiens qui leur fournissent du riz, des outils, des habits, de la lessive, depuis plus de 10 ans déjà. Il faut aussi savoir que les Jarawa sont la cible d'un ethnocide depuis quelques années. 4 enfants ont été trouver la mort dans un hôpital suite à de mauvaises prescriptions médicales. Des femmes ont été enlevées et violées par des Indiens. Des braconniers viennent régulièrement troubler leur tranquillité. Enfin, le député Bishnu Padarei, si j'espère pas avoir fait de gaffe,
désolé,
a déclaré que les Jarawas voulaient abandonner leur mode de vie et rejoindre la communauté indienne, sauf qu'il ne leur a jamais demandé leur avis. Donc c'est aussi pour cela qu'il faut aller voir ce docu, pas seulement pour apprendre et s'éduquer, mais aussi pour soutenir ce projet. Car même l'équipe du film a lancé une campagne de sensibilisation et une pétition pour faire pression sur le gouvernement indien afin de protéger les Jarawas.
Nous sommes l'humanité, c'est voilà. Donc un documentaire qui sort mercredi prochain. Si tout va bien, et je dis bien si tout va bien, on a encore en négociation, nous devrions avoir Alexandre de Reims, qui est le réalisateur de ce film, avec nous la semaine prochaine dans Studio B.
Studio B, l'interview.
Au début du mois d'avril est révélée la liste des films sélectionnés pour le Festival de Cannes dans les différentes sections du Festival de Cannes. Cette année, dans la section Un certain regard, il y a une heureuse scénarisatrice du film Sofia. Linda, je te laisse donc présenter notre invitée de la semaine, la réalisatrice du film Sofia.
Vous êtes née à Rabat au Maroc, vous avez grandi entre le Maroc, la France et la Belgique. En 2010, vous intégrez l'INSAS à Bruxelles en option réalisation. Vous réalisez plusieurs courts-métrages dont Jenna, sélectionné dans plusieurs festivals internationaux. internationaux et listé pour les Oscars 2015. Et vous êtes avec nous pour nous parler de votre premier long métrage Sophia, qui représente le Maroc pour l'édition 2018 du Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Bonjour Myriam Benbarek.
Bonjour.
Alors, de quoi parle votre film ?
Alors, le film soulève donc plusieurs questions. Le sujet principal du film, c'est la fracture sociale. Voilà, en fait, Sophia, je l'ai un peu écrit, pensé, même dans la mise en scène, comme un portrait, en fait, de la société marocaine et de comment est-ce que cette société fonctionne à travers ces castes sociales et ces relations de pouvoir et de domination entre les différentes classes sociales. Voilà. Après, tout ça est révélé à travers l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sophia, qui découvre lors d'un repas de famille qu'elle a fait un déni de grossesse et qu'elle est sur le point d'accoucher. Donc elle va être accompagnée par sa cousine qui, elle, est issue d'un milieu un peu plus privilégié qui s'appelle Léna, qui est étudiante en médecine. Et elles vont donc s'extirper du repas familial pour essayer de trouver un endroit où elles puissent accoucher dans un hôpital, puisque les relations sexuelles en dehors... Hors mariage, sont prohibées au Maroc. Et donc, voilà, elles vont partir un peu dans cette course effrénée la nuit pour essayer de trouver une solution pour que Sophia puisse être prise en charge. L'hôpital accepte de la prendre en charge à la seule et unique condition qu'elle puisse fournir, en fait, les papiers d'identité du père avant le lendemain matin. Donc là, elles partent à la recherche du père. Et donc, cette histoire... c'est une fois que le père est retrouvé qu'on rentre vraiment en fait dans le cœur du film, dans vraiment le noyau et le sujet du film, qui est donc la fracture sociale. Donc évidemment, le film soulève des questions de certaines lois qui pourraient être arbitraires pour les individus, etc. Évidemment, qui soulève aussi les questions de la condition féminine, notamment. Mais en fait, il soulève surtout les questions de la condition humaine en général, puisque il est difficile pour moi de concevoir une société, de réfléchir une société de manière globale sans inclure en fait les hommes, les femmes, tout le monde dans ce fonctionnement-là. Et surtout, en fait, je l'ai pensé comme une critique aussi. Un peu d'un regard un peu naïf qui peut être porté sur le Maroc, sur le monde arabe notamment, puisque voilà, j'ai vraiment pensé, écrit le personnage de Sophia comme un personnage en fait qui refuse son statut de victime, en fait. Voilà.
Alors, vous soulevez aussi certains tabous, peut-être. Un film marocain qui soulève des tabous, qui est présenté à Cannes, ça rappelle assez étrangement l'histoire de... Enfin, pas le pitch, mais en tout cas l'histoire qu'a eu le film Much Loved. Vous n'avez pas peur d'avoir aussi la même fin d'histoire, c'est-à-dire des réactions un petit peu violentes, notamment au Maroc ?
Alors non, j'ai pas du tout peur de ça. Absolument pas, puisque j'ai vraiment en fait écrit, si vous voulez, mes principales références pour la mise en scène, pour l'écriture notamment, mes références principales restent le cinéma iranien. En fait, je suis une grande fan de cinéma iranien et voilà. Et dans le cinéma iranien, toutes les questions sociales un peu délicates qui sont soulevées dans ce cinéma-là par des réalisateurs comme Farhadi, Kiarostami, Panahi, ils arrivent à se jouer aussi de la censure. Moi je pense que c'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus impactant, beaucoup plus intéressant de trouver le moyen de dialoguer, de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses et de soulever des questions à travers le cinéma quand c'est fait pas de manière un peu rentre dedans, etc. Il y a aucune scène dans mon film qui se veut miraculeuse, il y a pas de scène de sexe, il y a pas de voilà, tout y est.
Rien de choquant.
Rien n'est vraiment, absolument rien, non, vraiment rien, je suis désolée de vous décevoir.
Ah non, mais alors vous décevez pas du tout, on est ouvert, on prend tout. Ce qui est choquant ou pas, ce qui n'est pas choquant, c'est très bien aussi.
Non, il y a rien de choquant. En fait, mon film, il se veut vraiment comme une analyse, si vous voulez, la première partie fonctionne comme un thriller social. Donc là, on est un peu entraîné avec ces deux nanas dans la nuit à Casablanca, etc. mais très vite, en fait, on bifurque vers une analyse sociale.
Myriam Benbarek, vous restez avec nous pour parler du film Sophia, votre film qui est sélectionné dans la section Un certain regard du Festival de Cannes. On continue d'en parler avec vous et on parlera également du Festival Cérimonia tout à l'heure aux alentours de 10h40. Restez avec nous, c'est Studio B jusqu'à midi sur Beurre FM.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda.
Vous écoutez Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. On est ensemble jusqu'à midi pour vous parler de cinéma, mais aussi de séries. Tout à l'heure, à 11h40, nous aurons Frédéric Lavigne. C'est le directeur artistique du festival Cérimania, un festival qui a démarré vendredi à Lille et qui parle, comme son nom l'indique, de séries. Rendez-vous tout à l'heure à 10h40. Mais pour l'instant, avec nous par téléphone, c'est Myriam Mbarek. C'est la réalisatrice du film Sophia, réalisatrice marocaine. Son film a été sélectionné pour la section Un certain regard au Festival de Cannes.
Justement, on parlait du film et vous avez fait le choix de séparer votre film en deux temps. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Exactement. En fait, il y a vraiment une première partie voilà, qui s'apparente au thriller et une seconde partie où là, on est effectivement dans une enquête sociologique, si vous voulez, de comment fonctionne le Maroc à travers ses rapports de force, ses rapports de pouvoir, etc. Et voilà, parce qu'en fait, ce qui était important pour moi de dire, de raconter, c'est que souvent, si vous voulez, on a une espèce de représentation des femmes, toujours un peu dans le cinéma du monde arabe et qui fonctionne notamment en Occident. Pour plusieurs raisons, en fait, je n'ai pas forcément de réponse. Peut-être que c'est ce qui est plus facilement finançable, quoique je ne sais pas, puisque mon film ne ressemble pas du tout. On n'est pas du tout dans un archétype d'un personnage féminin issu du monde arabe qui soit victime du patriarcat, du machisme, etc., et qui doit se libérer de cette espèce de domination là. Bon, évidemment que tout cela, existe en partie. Mais vraiment, Sophia, c'est un personnage, une espèce d'héroïne empêchée, c'est une espèce d'héroïne tragique empêchée, et qui refuse vraiment son statut de victime. Donc, en ça, pour moi, à travers le regard de la cousine qui est moitié française, moitié marocaine, qui représente le regard occidental porté sur le Maroc, c'est vraiment à travers le regard de ce personnage-là aussi, de la cousine, que je propose en fait une espèce de remise en question aussi d'un regard un peu qui peut y avoir un peu de commisération, un peu naïf sur la condition féminine du monde arabe.
Est-ce que dans un sens, ce film pour vous a une connotation un peu politique ?
Mais moi, je crois que tout est politique, en fait. C'est ça aussi, quoi. Je sais pas s'il a une... Oui, je pense qu'il a une connotation politique, clairement. Il y a des questions politiques qui sont soulevées. Mais en fait, qu'est-ce qui n'est pas politique ? Tout est absolument politique aujourd'hui. Est absolument politique. Les rapports de famille le sont, l'amour l'est également. Donc, en fait, je crois que quand on fait un film, qu'on le veuille ou non, je crois que ça reste politique dans un sens.
Et comment ce choix de sujet a été vu au Maroc par la population, mais aussi par les autorités ?
Alors, nous, on n'a pas du tout été financé par le Maroc. C'est un film qui est entièrement financé par la France. Après, on a eu absolument aucun problème à recevoir les autorisations de tournage du CCM, puisqu'en fait, encore une fois, mon film, il fonctionne comme un constat. Donc il n'y a pas, si vous voulez, je ne porte même pas de jugement sur les choses. C'est une simple constatation de comment est-ce que cette société fonctionne, comme un espèce de rouleau compresseur social, et qu'est-ce que en quoi est-ce que ça peut pousser les gens à parfois faire des choses qui les dépassent, quoi, voilà. Donc on n'a pas eu de problème pour recevoir des autorisations, absolument pas. Et puis, pour tout vous dire, l'équipe marocaine a été d'un très grand soutien sur ce film, et au fur et à mesure de la fabrication du film, tous me confortaient vraiment dans cette idée que le film ressemblait vraiment à un film qui parlait du Maroc. Même quand on rentrait dans les décors ont été complètement construits, et quand les techniciens découvraient les décors, ils me disaient tous, on a l'impression d'être dans notre famille, en fait.
Ça a été tourné à Casablanca,
ma mère. On a tourné à Casa, ouais.
Et du coup, votre film, est-ce qu'il sera diffusé au Maroc ou est-ce que c'est juste en France
Normalement, il devrait être diffusé au Maroc, bien sûr. Et puis, c'est important pour moi qu'il le soit. C'est important pour moi que les Marocains le voient. C'est important pour moi que les télés diffusent également ce film et que le film rentre dans les foyers. Parce que je pense que c'est important que des films comme celui-ci soient vus. C'est voilà, j'ai beaucoup, enfin, je me suis un peu fixée une espèce de, j'étais un petit peu radicale, si vous voulez, dans l'écriture, dans la mise en scène, aussi pour faire extrêmement attention et d'être au plus près de la réalité marocaine et de ne pas du tout tomber dans quelque chose d'un peu auto-exotisant ou qui puisse un peu fonctionner, séduire aussi le regard occidental, parce qu'il y a des choses qui peuvent être extrêmement séduisantes, même à l'œil nu, et qui, dans les décors, dans les choix de décors, dans les choix de costumes, dans toutes ces choses-là, ont des impacts très forts, en fait, même inconscients, mais extrêmement forts sur le public. Donc, moi, j'ai été extrêmement vigilante à ça, et en ça, j'espère que le film va être vu au Maroc, il va être accepté. Et puis après, j'ai bon espoir, puisque comme je vous disais, c'est un thriller social, donc c'est aussi très attirant, c'est une histoire extrêmement attirante en fait. Enfin, c'est très, tout va très vite, on est entraîné par les personnages, que bon, on s'ennuie pas.
C'est... Justement, les personnages. Comment est-ce que vous avez choisi vos personnages? Tout à l'heure, on parlait par exemple de Much Loved. Vous avez pris Sarah, je vais pas prononcer mal le nom, mais alors Sarah El Hamdi El Alaoui. Donc, on la retrouve dans Much Loved et ce film a été jusqu'au Festival de Cannes. Comment avez-vous fait ces choix-là?
Comment est-ce que j'ai fait ces choix-là? Donc, bon, déjà, il y a beaucoup de casting sauvage. Il y a beaucoup de il y a eu beaucoup de casting sauvage, il y a eu beaucoup de casting aussi chez des jeunes acteurs non professionnels. Sarah n'est pas actrice en fait à la base, elle travaille, enfin elle est comptable, donc absolument rien à voir. Elle n'avait pas spécialement envie de rejouer en fait, elle n'avait pas était pas très attirée par cette idée-là. Mais voilà, j'ai pu, on a pris beaucoup de temps, une année à discuter, à voilà. Mais elle correspond parfaitement. Enfin, c'est très très loin de son personnage dans Much Love, donc elle a absolument, absolument rien à voir.
Voilà. Et alors, encore, j'ai encore deux petites questions et je vous laisse repartir au montage. Allez. Alors, vous avez déjà remporté un prix hein, à la fin de vos études pour votre court-métrage Jenna, le grand prix au Festival de Rhode Island. Est-ce que ça vous a mis une pression d'entrée de jeu ou au contraire, ça vous a permis de prendre confiance en votre talent?
Le prix à Rhode Island?
Oui.
Alors, écoutez, en fait, ces histoires de prix, vous savez, ça veut un peu tout et rien dire. Moi, je me suis... en fait, pour moi, les prix, je les prends comme des signes un peu d'encouragement, quoi. Et cette sélection à Cannes, pour moi, c'est un peu ça. Je trouve la sélection de Thierry Frémaux cette année extrêmement audacieuse, novatrice. Il a ouvert les portes de la sélection officielle à des cinéastes qui viennent de nulle part, dont personne n'a jamais entendu parler. Il y a 5 cinéastes du monde arabe, donc j'en suis très très heureuse. Et tout ça, comme le prix à Rhode Island, je prends ça vraiment comme des signes d'encouragement. Parce que, croyez-moi, faire ce métier, c'est beaucoup de déceptions, beaucoup de persévérance, beaucoup de portes qui se ferment pendant très longtemps. Et donc, il faut être extrêmement téméraire. Extrêmement patient et quand on n'a pas des petits encouragements comme ça, on en a des fois une fois tous les 3-4 ans, hein. C'est pas beaucoup mais on prend quand même. Voilà, c'est des métiers très violents en fait parce qu'il y a beaucoup de déceptions et c'est vrai que ces prix-là encouragent. Alors le prix de Rhode Island, c'était pas immense en soi mais pour moi c'était
et à la fin de vos études, ça fait quand même toujours
oui,
du
voilà,
bien
de un film de fin d'école. D'ailleurs, il y a peu de gens qui savent que Jenna était un film de fin d'école qui a été vraiment financé avec 3 bouts de ficelle, on a tourné ça en 5 jours.
C'est pour les fins d'études,
voilà, c'était vraiment un film de fin d'études avec pas beaucoup de temps de tournage, très peu de temps de montage, mais voilà, on avait tous envie de le faire, on avait tous l'énergie et la patate pour le faire. Et du coup, effectivement, c'était très surprenant pour moi de recevoir ce prix à Rhode Island. Parce qu'en fait, ce prix me présélectionnait aux Oscars directement. Et puis, du coup, c'était ça qui a été extrêmement encourageant, effectivement, quoi.
Mais ces festivals, et en particulier celui de Cannes, c'est aussi un formidable coup de projecteur. Ça permet, vous parliez de portes un peu fermées, ça permet de les ouvrir et même de toutes les défoncer, les portes, là.
Mais c'est bien ça qui est, comment dire, si vous voulez, cette sélection de Thierry Frémaux cette année me donne énormément d'espoir et beaucoup foi en l'avenir du cinéma français et mondial. Parce que, voilà, Thierry Frémaux a décidé de faire des choix très radicaux cette année. Il y avait beaucoup de gens qu'on attendait au Festival de Cannes et qu'on ne va pas voir malheureusement. Et il a décidé de laisser la place à des gens qui sortaient de nulle part. Moi, pour le Festival de Cannes, je sors absolument de nulle part, croyez-moi. Je n'ai jamais mis les pieds à Cannes de toute ma vie. Pour moi, c'est la première fois, je vais découvrir. Donc c'est très...
c'est une belle expérience.
Voilà, j'ai jamais été dans des très grands festivals comme celui-ci. C'est mon premier long métrage. Nous, on a un peu travaillé en sous-marin, on a un peu bossé dans notre coin, on n'a pas vraiment communiqué sur l'avancée du film. Le développement s'est fait à une vitesse fulgurante parce que aussi je me suis enfermée pendant un an et j'ai écrit à peu près 10 heures par jour sans m'arrêter. Et puis du coup, comme l'écriture a avancé très très vite et que le film a été prouvé assez rapidement, si vous voulez, le développement a suivi aussi tout aussi naturellement. Après, on a eu des surprises assez incroyables. On a eu l'avance sur recette du premier coup, ce qui était assez...
C'est un moyen de financer rare. Le film, hein, pour ceux qui ne connaissent pas.
Voilà, tout à fait. C'est un peu la grosse aide du CNC qui permet de financer le film. Donc nous, une fois qu'on a eu ça, on a été soutenu par Doha Film Institute, on a été soutenu aussi par Canal+, et puis par la Fondation Gann. En fait, les premiers, ça a été Doha, ensuite la Fondation Gann. Et puis en fait, ensuite, ça a été un effet boule de neige. Et puis, dès qu'on a eu l'avance sur recette, ça y est, on s'est dit, banco, on n'a pas un budget très conséquent, mais on part faire le film quand même avec ce qu'on a, quoi.
Et pour un résultat qui du coup va être montré à Cannes, c'est dans quelques semaines, hein, Cannes, c'est vraiment au début du mois de mai. Le film sortira en octobre sur les écrans. Il est prêt ?
Alors présentement, il n'est pas prêt. Je suis encore en post-production, donc c'est un petit peu la course puisque le film, le Festival de Cannes commence le 8. Il y a déjà des projets presse qui vont être prévus avant le Festival de Cannes et la projection à Cannes du film sera le 16. Et donc, normalement, écoutez, si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de soucis, je devrais terminer d'ici une semaine le film. Voilà.
C'est vraiment le sprint final.
C'est un peu le sprint final, oui, c'est un petit peu ça. Mais écoutez, une fois que ça sera fait, j'ai hâte de découvrir le film dans une très belle salle parce que apparemment la salle de Bussy à Cannes est assez exceptionnelle. D'écouter le film et de le voir dans des conditions optimales de un peu voir les choses avec un peu de recul et se rendre compte que voilà, toutes ces années de travail aboutissent quand même à quelque chose, quoi.
Et ben voilà, on lui souhaite bonne chance à votre film, Sophia Meriem Ben Barek.
Merci Meriem Ben Barek.
Votre film donc qui sera diffusé à Cannes dans la section Un certain regard. Et puis vous reviendrez nous voir avec le prix, si on vous avait, en tout cas on l'espère, au mois d'octobre lors de la sortie du film.
Ben écoutez, apparemment le 19 septembre, mais peut-être que vous avez des informations plus précises que moi, je ne sais pas trop.
Je pense que j'ai moins d'informations sur votre film que vous, c'est plutôt j'ai dû me tromper sur les informations que j'ai. Donc le 19 septembre, on va nous voir en septembre.
Mais absolument définitif, mais a priori ce serait le 19 septembre, oui.
Alors on va se dire à la rentrée, comme ça sera plus simple. Merci beaucoup.
Exactement.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Studio B, l'actu ciné.
Les news et un box-office cocorico pour commencer ces actus. Trois films français sur le podium. Vous vous en doutez, mais c'est Taxi 5 hein, qui reste premier avec 640 000 spectateurs de plus. Attention, c'est moitié moins que la semaine dernière quand même. La comédie Love Addict avec Kev Adams arrive seconde avec 248 000 entrées. Et une autre comédie en troisième place, Largué avec Miu Miu et les deux Camille, Cotin et Chameau. Ready Player One est donc éjecté du podium, mais reste quatrième avec 205 000 entrées. La troisième comédie qui sortait la semaine dernière, c'était Place Publique avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Ils arrivent sixième avec 180 000 spectateurs. Et on notera la petite performance de Escobar, seulement septième avec 141 000 entrées. Aux États-Unis, le film d'horreur Sans un bruit qui était passé second la semaine dernière remonte sur la première place avec 20,9 millions de dollars rapportés. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, on ne compte pas en nombre d'entrées, mais comme en France, pour établir le box-office, on compte en dollars rapportés. Et c'est surtout un film très rentable, Sans un bruit, puisqu'il n'a pas coûté cher et commence à cartonner un peu partout dans le monde. On verra si c'est pareil en France.
France. Il sortira ici fin juin. Rampage Hors de contrôle passe donc second avec 20,1 millions de dollars et I Feel Pretty, une comédie qui n'est pas prévue de sortir en France, est troisième avec 16 millions de dollars. On passe aux news, Linda, et tu nous parles d'Arabie Saoudite et de cinéma dans la même phrase. J'imaginais pas que c'était possible.
Ensemble à la base, oui, puisque pour la première fois depuis 35 ans, des Saoudiens ont assisté à une séance de cinéma ouverte au grand public dans la capitale Riyad avec la projection du film d'action américain Black Panther. Alors des dizaines d'hommes et de femmes sont entrés dans la salle de cinéma, pop-corn et boissons gazeuses en main. D'autres salles doivent ouvrir dans les prochains mois dans ce royaume où les cinémas avaient fermé dans les années 80 sous la pression des religieux ultra-conservateurs. Alors les billets pour cette projection événement se sont arrachés très vite après le début des ventes en ligne. Comme les programmes télévisés, il faut savoir que les films projetés au cinéma seront soumis à la censure pour tout ce qui concerne les sujets tabous, évidemment, les sujets liés au sexe, à la religion et à la politique.
Voilà, on peut quand même saluer cette ouverture soudaine de l'Arabie Saoudite. On continue de parler et je pense qu'on n'arrêtera jamais d'en parler, de l'affaire Weinstein et de ses rebondissements.
Eh oui, c'est un truc de fou ce qui se prépare puisque le travail d'enquête des journalistes du New York Times va devenir un long métrage dans la lignée de Spotlight. Le projet sera produit entre autres par Brad Pitt. Le film racontera comment les journalistes ont travaillé avec Rebecca Corbett pour révéler cet énorme scandale qui a éclaboussé Hollywood et conduit à la chute de Harvey Weinstein. Pour l'heure, le film n'a ni scénariste ni metteur en scène puisque le producteur vient seulement de s'en attacher les droits.
Bon, alors je viens de lire le sujet de ta dernière news. Tu es sûr ?
Sûr, oui. Chicken Run, tu te souviens ?
Ouais.
Et ben voilà, et ben, y a une suite.
Ça
et
revient
en fait,
ah, fort.
En préparation, ouais, après plus de 20 ans sans nouvelles. Hein. Sorti en 2000, le premier vrai long métrage de studio britannique avait aussi marqué sa plus belle réussite au box-office, imposant encore à ce jour comme le plus grand succès commercial de l'histoire pour un film en stop-motion. Revisitant délicieusement la grande évasion de John Sturge, il mettait en scène un groupe de poules pondeuses cherchant à tout prix à filer à l'anglaise sous peine d'y laisser quelques plumes.
Ah mais c'est drôle.
Ouais, c'est génial.
Il faut revoir Chicken Run si vous ne l'avez pas vu. Enfin, le voir si vous ne l'avez pas vu ou le revoir si vous l'avez déjà vu.
Il faut y avoir les deux, hein, avoir ensemble au pire.
Exactement. Allez, trois infos en bref pour terminer.
Et oui, en bref, Harrison Ford prêtera sa voix pour la première fois au film d'animation Comme des bêtes 2. C'est la première fois qu'il prête sa voix, il faut savoir.
Michel Hazanavicius.
Et oui, il est de retour avec Le Prince Oublié. Le réalisateur de The Artist s'entourera d'Omar Sy, François Damien et Bérénice Bejo.
Et puis une occasion de nous parler de foot.
Et oui, j'étais pas là, j'étais en vacances. Hein, alors tu te doutes bien que même si c'était plus trop d'actualité, il fallait que j'en parle. Puisqu'Olive et Tom, y a une nouvelle série animée. Alors c'est une série 2018. Hein, faut savoir qu'ils ont des téléphones portables. Enfin voilà quoi, vraiment.
C'est Olive et Tom 2018, c'est ça. Reste avec nous, Studio B continue jusqu'à midi. On a parlé de cinéma, mais on parlait aussi de séries avec le festival Sérimania, un festival qui a démarré à Lille vendredi avec plein de projections gratuites. Ça dure toute la semaine jusqu'à samedi. On en parle avec le directeur artistique de ce festival, Frédéric Lavigne, dans quelques minutes. Reste avec nous, c'est Studio B jusqu'à midi. À tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda.
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. On aime le ciné, on aime aussi les festivals et on aime aussi les séries. Donc on aime forcément les festivals qui parlent de séries. Et avec nous, Frédéric Lavigne, vous êtes le directeur artistique du festival Sérimania. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Beurre FM, festival Sérimania qui a démarré vendredi et qui durera jusqu'au samedi 5 mai à Lille, samedi prochain. C'est la première édition à Lille, mais ce n'est pas la première édition du festival qui a été créé en 2010. Alors comment il se retrouve dans le Nord, votre festival ?
Bah oui, en fait, c'est une espèce de spin-off du Sérimania parisien qu'on avait créé il y a 9 ans au Forum des Images, un festival qui avait bien grandi et puis qui, par... différents concours de circonstances et puis une forte volonté politique a fini par renaître sous une forme un peu différente à Lille cette année. Donc c'est à la fois une première édition et une neuvième. Voilà, en tout cas, ça sera une nouvelle forme du festival et un deuxième grand chapitre, une deuxième saison.
C'est la saison 2, c'est ça, oui.
Oui, voilà.
On m'a dit que la ville de Cannes s'était un peu battue pour vous avoir aussi.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un appel d'offres du ministère il y a 2 ans qui a essayé de voir quelle ville pourrait être la plus en mesure d'accueillir ce grand festival voulu voilà par les pouvoirs publics dédié aux séries et qui aura lieu en France. Et c'est vrai que Cannes était candidat, n'a pas gagné. D'ailleurs, nous-mêmes, on était candidat à Paris au Forum des Images, on n'a pas gagné non plus. Et puis c'est Lille qui a gagné. Et c'est vrai qu'à la fois les voilà les pouvoirs publics de Lille et de Cannes sont venus nous voir en nous disant ben venez le faire chez nous. Voilà, et on a décidé finalement d'aller à Lille.
Bon, ça y est, une fois ces questions administratives fixées, vous êtes fixé à Lille, dans le nord de la France. Quelle sera la programmation du coup de ce festival?
Alors c'est une programmation qui est un peu triple. D'abord il y a un peu une continuité de ce qu'on faisait déjà à Paris, c'est-à-dire des projections sur grand écran du début des deux premiers épisodes de 70 séries en provenance du monde entier, avec à chaque fois les équipes invitées pour débattre. Aussi beaucoup d'invités d'honneur pour des masterclass. Voilà un jury international. Là c'est Chris Brancato, le créateur de Narcos sur Netflix, qui sera là et qui fera une masterclass avec le public. On a aussi Carlton Cuse, qui avait fait Lost et Norman Bates. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la continuité de ce qu'on faisait à Paris. Et puis après, il y a des tas d'autres événements qui ont lieu à travers la ville, dans tous les lieux de la ville, en particulier dans un lieu incroyable qui s'appelle le Tripostal, où on a 3000 m2, où on fait des expositions, des ateliers, des fêtes, et des activités transdisciplinaires et artistiques autour des séries. Et enfin, une dernière section, elle professionnelle, qui dure 3 jours, où là, dans le centre des congrès de Lille, on reçoit 1500 accrédités du monde entier qui, eux, là, vont faire le business des séries dans les coulisses.
Alors, vous parliez au début de votre réponse de séries sur grand écran. C'est vrai que les séries sont tournées pour être sur des petits écrans. Enfin, même si les télés sont de plus en plus grandes aujourd'hui, mais c'est quand même c'est pas fait généralement pour les grands écrans, pour le cinéma. Est-ce que les séries prennent une autre dimension sur un écran de cinéma?
Oui, c'est vrai qu'on est souvent surpris, en fait, de leur capacité à résister au grand écran. Je pense que c'est venu aussi, c'est depuis le grand mouvement du début des années 2000, les moyens de plus en plus importants mis dans la production et l'attention aussi donnée aux qualités artistiques, parce qu'aujourd'hui les séries se battent, hein, et il y a énormément de concurrence, énormément de chaînes, de plateformes.
Ah ouais, c'est presque des films, hein, carrément, sur plusieurs heures, mais...
Ah oui, tout à fait, c'est comme des... Disons que...
C'est les mêmes moyens.
Des choses... Ouais, voilà, on finit par avoir des moyens à peu près comparables, en tout cas quand on parle de séries, évidemment, comme Game of Thrones, et ça marche absolument sur le grand écran. On a Westworld, là, qui sera aussi présenté sur grand écran, ça fonctionne évidemment. Après, dans les pays qui ont moins de moyens ou sur des séries plus intimes, c'est moins évident. Mais finalement, le grand écran qui donne accès aussi au visage amène des émotions un peu plus à fleur de peau. Et surtout, on retrouve le plaisir du visionnage collectif, c'est-à-dire de frissonner, de rire, de pleurer en même temps sur un objet que par ailleurs, sinon, on voit de manière extrêmement solitaire.
Parmi les sections de votre festival Sérimania, il y a une section format court, consommer rapidement sur son écran de téléphone portable ou en attendant le bus, par exemple, ou le train. Est-ce que le format court, c'est l'avenir de la série?
Alors, je pense pas que ce soit forcément l'avenir, mais en tout cas, c'est un laboratoire. En tout cas, en ce moment, c'est ça. On y découvre plein de nouveaux talents qui arrivent à se mettre à le pied, à l'étrier. Voilà, parce qu'on leur dit, vous avez 10 fois 10 minutes pour raconter une histoire. Donc, c'est à peu près la durée d'un long métrage, finalement, mais découpé en chapitres. Et ces jeunes talents, du coup, très rapidement, beaucoup plus que s'il fallait qu'ils montent une grosse série en format 52 minutes, qui demande des moyens, beaucoup plus de convaincre des gens haut placés. Et bien voilà, on voit arriver des choses un peu innovantes et avec des talents nouveaux qui viennent de partout. Et c'est dans ce sens-là qu'on a voulu leur donner une place importante avec une nouvelle compétition.
Il y a aussi une compétition. Alors, il y a plusieurs sections sur les séries françaises, les séries internationales. On a parfois un peu une mauvaise image des séries françaises, un peu plan-plan, ou même des séries européennes globalement par rapport aux séries américaines. Comment est-ce qu'on peut faire pour redorer le blason des séries françaises?
Les séries françaises, c'est un long travail de convalescence, parce que c'est vrai qu'on avait pris énormément de retard au tournant des années 90, début 2000. En arrêtant quasiment de faire des séries en format 52 minutes pendant trop longtemps en France. C'était le format du téléfilm unitaire qui prévalait. Et puis on a pris du retard au moment où HBO a tout explosé. Voilà, Canal+ quand même a enchaîné assez vite. Mais c'est vrai qu'il a fallu attendre des succès quand même reconnus même par l'étranger, comme Les Revenants, ou en France des séries sur Arte, comme Ainsi soit-il. Et puis maintenant 10% sur France Télévisions, voilà, qui font la différence, le Bureau des Légendes, où là, tout d'un coup, on est capable de produire vraiment une saison par an et avec des talents mixtes qui viennent du théâtre, du cinéma, peu importe. Il n'y a plus ce côté télé enfermé sur elle-même en France. Et du coup, ça redonne un vrai souffle d'air. Et honnêtement, la qualité est croissante. Tous les ans, nous, on l'observe. Hein. On a tous les ans une sélection française. Et cette année, on a même 8 titres au total, dont une en compétition internationale, Ad Vitam, réalisée par un jeune cinéaste, Thomas Caillet, qui avait fait Les Combattants. Et avec voilà, des vraies ambitions. C'est de la science-fiction qui nous met dans un monde futuriste où on arrêterait de mourir. Et voilà, ça montre quand même qu'on est sur des sujets un peu différents de ce qu'on faisait avant.
Même si finalement les séries 90 minutes type Camping Paradis ou Joséphine et le Gardien font encore beaucoup d'audience finalement à la télé, c'est presque surprenant.
Oui, mais en fait, vous savez, on est voilà, on a il y a des publics différents, c'est-à-dire qu'on souvent on réduit le public des séries à un public jeune qui la consomme immédiatement. Nous au festival, on essaie de n'écarter personne, donc on va faire aussi bien une avant-première de Capitaine Marlowe qui fait quand même 8 millions de téléspectateurs à chaque diffusion, ce qui est quand même beaucoup plus que les succès de Canal+, hein, ou même de Netflix. Donc on invite aussi Corinne Maziero à venir, on va parler aussi de Candice Renoir, et puis on va aller chercher des séries de Netflix pour adolescents, comme The Rain, dont on fait la première mondiale, des choses plus pointues aussi, des séries israéliennes. Les séries maintenant, c'est un peu tout un univers en soi qui touche tous les publics et sous toutes les formes. Donc nous, on essaye d'être le plus démocratique et ouvert possible.
Alors c'est un festival grand public hein, qui a aussi un volet professionnel, vous le disiez. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce volet professionnel ? Est-ce qu'il y a une notion de marché des séries où les gens viennent pour acheter et vendre les séries ou c'est vraiment plus de la conférence ?
Alors nous, on ne veut pas être un marché parce qu'il y en a déjà beaucoup dans le monde et en France en particulier. Il y a le MIPCOM et le MIPTV deux fois par an à Cannes qui sont vraiment des espaces d'achat et de vente de séries. Hein, où ceux qui les ont finis les présentent à ceux qui peuvent les acheter. Donc nous, on a voulu inventer autre chose. Et ce qu'on fait, c'est un espace qu'on appelle le Forum européen des projets et des talents, où on axe beaucoup sur l'Europe, parce qu'on croit beaucoup à l'essor des séries européennes. Les Nordiques, quand même, avec Borgen ou Real Humans ou plein d'autres séries comme ça, ont montré le chemin. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir tous les producteurs européens, tous les talents européens, les scénaristes, et on les met en relation avec les Américains, les financeurs du monde entier. Et on fait, par exemple, ce qu'on appelle pitcher des projets. On sélectionne 15 projets, on les fait raconter à l'oral en quelques minutes. On organise des rendez-vous en dessous, autour, pour qu'ils puissent trouver l'argent. On essaye un peu d'être un incubateur, un accélérateur de fabrication de futures séries. Et d'ailleurs, cette année, on peut noter que dans notre compétition, on a une série danoise qui s'appelle Warrior, et qui, en fait, a été présentée à l'oral il y a 2 ans dans ce forum de coproduction. Comme quoi, c'est utile et ça se concrétise.
Puis c'est un festival grand public qui a un prix défiant toute concurrence pour les projections.
Ah ben pour l'accès aux séances pour le public.
Voilà.
Et ben c'est gratuit.
Ben voilà, c'est il faut le souligner hein, parce qu'il y en a quand important. Même très peu.
Non, c'est important parce que en fait c'était quelque chose qu'on a subi au départ. C'était les studios américains qui nous l'ont imposé quand on a créé ce festival parce qu'il n'est pas prévu dans leur contrat avec les auteurs qu'il y ait d'exploitation en salle, donc c'était très compliqué. Et donc on a décidé pour simplifier de faire gratuit. Et finalement, ça a beaucoup contribué à la popularité de l'événement. C'est aussi la possibilité d'enchaîner les séances sans compter, de ne pas être bloqué par ça. Et puis c'est aussi la possibilité d'avoir du public voilà, qui n'a pas forcément les moyens de participer à des événements culturels payants. Voilà, ça le démocratise et ça en fait une immense fête.
C'est vrai qu'on associe souvent la série au gratuit puisque c'est diffusé à la télévision, même s'il y a de plus en plus de plateformes payantes maintenant, comme vous parliez de Netflix ou HBO aux États-Unis. Il y a une concurrence entre le gratuit et le payant dans le domaine de la série ?
Bah oui, disons que aux États-Unis, voilà, de toute façon, on paye toujours. Hein, c'est-à-dire que quand c'est gratuit aux États-Unis, c'est qu'on a regardé 20 minutes de pub sur 40 minutes de fiction. Donc quelque part, on a payé en tant que spectateur le prix oui. Pour avoir cette gratuité.
Quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Il y a une expression qui dit.
C'est nous qui sommes mis à disposition des annonceurs, voilà, pour que la chaîne puisse financer la série. Et quand c'est payant, bah, c'est qu'on a payé un abonnement et qu'après on ne compte plus, on se rend plus compte que c'est payant. C'est le cas de Netflix, mais c'est le cas des chaînes câblées comme HBO aux États-Unis ou Canal+ en France. Quelque part, on paye toujours un peu, sauf évidemment quand on fait du téléchargement illégal où là, on s'affranchit de tout ça et on ne va pas.
On ne fait pas ça.
on va pas faire comme si ça n'existait pas. C'est évidemment une pratique très courante qui est en train de chuter un peu d'ailleurs du fait que maintenant les chaînes en France et dans le monde entier ont bien compris qu'il fallait mettre à disposition tout de suite, traduire très vite légalement toutes les séries sur des plateformes avec des abonnements quand même vraiment pas chers par mois. Quand vous payez 10 euros par mois, c'est quand même pas la mort et vous avez accès aux choses tout de suite. Donc en fait, cette pratique est en train de diminuer quand même progressivement. Et voilà. Après, la concurrence entre les deux, c'est que les chaînes câblées, les chaînes payantes, ont tendance à se dire que leur public est plus ciblé, on va dire des fois plus masculins, plus éduqués, ça peut être des critères sur Canal+ ou sur HBO. Et donc ils font des séries un peu adaptées à leur public. Hein. Voilà, on va dire des fois plus violentes, plus complexes, plus dérangeantes que quand c'est une chaîne gratuite qui est accessible à tout le monde et où là il faut faire attention à la nudité, à la violence parce que n'importe qui peut allumer et tomber dessus.
Et puis même ces plateformes payantes rachètent même parfois les droits de séries diffusées gratuitement au départ à la télé. C'est le cas, on le dit jamais assez parce que Netflix se l'est vraiment approprié, mais La Casa de Papel qui était diffusée sur Antena 3, une chaîne de télévision espagnole et qui a maintenant été repris par Netflix. Ben voilà, merci beaucoup.
Vous faites bien. Oui, pardon,
je voulais
le préciser parce que c'est vrai que Netflix a tendance à essayer de faire croire qu'ils ont tout produit eux-mêmes. Et en fait, c'est un excellent canal de diffusion, mais ils ont des productions originales telles que House of Cards, par exemple, qui est vraiment une production originale, hein, ou Mindhunter, par exemple, cet automne. Mais quand ils font Casa de Papel, c'est vraiment juste un rachat d'une série qui a déjà été lancée en Espagne, ou même The End of the Fucking World, qui avait été lancée sur Channel 4 en Angleterre avant. Donc c'est quand même bien de le rappeler, effectivement, pour les chaînes qui l'ont lancé dans leur pays.
Alors ce serait intéressant, justement, sur La Casa de Papel, qui a eu ses deux premières saisons diffusées et produite par la télévision espagnole Antena 3, puisque la saison 3 qui a été commandée par Netflix sera entièrement produite par Netflix. On verra s'il y a une différence avec cette saison 3 par rapport aux deux premières saisons.
Ouais, ça sera intéressant de savoir. Mais c'était aussi le cas de Black Mirror, par exemple, qui a été repris par Netflix véritablement à partir de la saison 3.
Merci Frédéric Lavigne. On rappelle, vous êtes le directeur artistique du Festival Sérimania. Le Festival Sérimania, c'est à Lille. Toutes les infos, on les retrouve sur votre site internet sérimania.com, série au pluriel, hein, sérimania.com. Et puis donc, les séances sont gratuites et c'est à Lille jusqu'à la fin de la semaine. Merci.
Merci.
Et ben voilà, c'est déjà terminé pour ce Studio B.
Eh oui, c'est triste.
Oh, c'est triste, mais c'est pas grave puisqu'on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez raté les émissions, vous pouvez toutes les retrouver sur le www.beurrefm.net à la rubrique Studio B. Toutes les podcasts sont disponibles. La suite du programme, votre week-end magazine qui continue sur Beurrefm avec Philippe Robichon et Émilie Avril pour le Book Club. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Passez un bon week-end et d'ici là, n'oubliez pas que le cinéma, c'est mieux au cinéma. Ciao!
Salut, salut!
Studio B, le magazine ciné de Beurrefm.